RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, depuis plus de 2 ans maintenant, le groupe État islamique du Khorasan, appellation de l'organisation terroriste en Afghanistan, multiplie les attaques contre les chiites, les forces gouvernementales, les journalistes dans ce pays, enlisés dans un conflit qui dure depuis près de 40 ans. Lui est devenu en l'espace de 24 mois la menace la plus importante après les talibans. Alors qui sont ces combattants? Quelles sont leurs motivations? Pour répondre à ces questions, il faut se rendre dans leur fief. Le Nangar, une province dans l'est de l'Afghanistan, où le groupe s'est implanté près de la frontière avec le Pakistan. Aux racines du groupe État islamique Khorasan en Afghanistan, un grand reportage signé Sonia Ghezali et Rassem Zabioula à Jalalabad.
J'ai fini par réussir à ouvrir le verrou, mais j'avais oublié qu'il y en avait un autre sur le bas de la porte.
Le 18 mai dernier, Boz Mamad Chinwari s'est acharné quelques secondes sur le portillon au fond du jardin de la radio-télévision afghane. Derrière lui, 4 hommes armés assiègent les locaux. Les verrous finissent par céder, le journaliste parvient à s'enfuir.
C'était le bureau administratif.
Et là, dans le bureau administratif, en fait, il y a 2 mouettes et des impacts de balles au plafond.
Les travaux de réparation commencent seulement. Les murs et les plafonds sont perforés par une multitude de larges trous de 20 cm de diamètre. Les impacts de balles défigurent le bâtiment couleur rose-orangé. Au bout du couloir, la salle des archives, les murs sont calcinés. Impossible de deviner qu'ils étaient auparavant couleur bleu-ciel.
C'est ici que l'on regardait les vidéos. Les assaillants ont jeté leurs vestes explosives, juste là.
Plus loin, sur des débris de verre et de bois, une paire de chaussures d'hommes en cuir noir.
Ils appartenaient à l'un de nos collègues qui a été tué.
5 employés de la RTA ont été tués ce jour-là dans l'attaque revendiquée par l'organisation État islamique, qui multiplie ses attaques depuis 2 ans et qui a fait des montagnes qui entourent Jalalabad son point d'ancrage. Dans le bureau intact du chef des programmes, Boz Mamad allume un petit téléviseur à tube cathodique, appuie sur un bouton à la recherche de la chaîne. Le logo de la RTA apparaît sur l'écran, des musiciens traditionnels jouent. C'est l'un des programmes phares, une émission de divertissement.
Dans cette partie de l'Afghanistan, la menace est permanente. La guerre est juste aux portes de la ville. On avait déjà reçu plusieurs menaces avant l'attaque. Le journalisme ici, c'est comme un grand djihad, une grande guerre. On doit mettre de côté sa vie, sa famille, tout, pour pouvoir faire notre métier.
Jalalabad, verdoyante, entourée de champs d'oliviers, d'orangers, de montagnes, est une capitale provinciale encerclée par l'organisation État islamique et par les talibans. Abdoul était l'un d'eux avant de rejoindre le groupe État islamique.
C'est nous qui avons installé ce nouveau groupe en Afghanistan. On pensait créer une organisation qui allait appliquer le pur islam. J'ai été contacté par des personnes que je connaissais. Je me suis alors rendu avec d'autres hommes à Tira, au Pakistan, dans un endroit qui s'appelle Tordara. On a discuté avec des personnes sur place et ensuite, on leur a prêté allégeance. On est rentré au village, les autres talibans ne savaient rien. On a attendu que Daesh prenne le pouvoir pour nous déclarer à leur côté.
C'est au début de l'année 2015 que le groupe s'empare des premiers villages. Des familles entières fuient en pleine nuit leurs maisons pour échapper aux combattants au drapeau noir. Les districts d'Achin, de Chinwar, de Pachiragam, de Kot, Patikot font la une de la presse locale qui révèle les atrocités commises par le groupe État islamique du Khorasan. Abdoul, assis en tailleur, la barbe teinte au henné, les dents noircies caressent l'ourlet de son chèche à carreaux noirs et blancs, tout en se confiant.
Personnellement, et comme tous les musulmans, je souhaitais vivre selon les préceptes de l'islam. Mais je les ai quittés parce qu'ils brûlaient les maisons des gens, ils tuaient des gens sans raison. C'est pour ça que je les ai finalement quittés.
Cet homme, marié à deux épouses, père de 14 enfants, est resté un an et demi dans les rangs du groupe terroriste. Kamal, lui, y a passé 8 mois, payé chaque semaine une 50aine d'euros. Originaire du district d'Achin, il dit avoir rejoint l'organisation État islamique lorsque les combattants se sont emparés de son village.
J'avais peur. Ils m'ont accusé d'être espion. Je n'avais pas le choix. Ils ont menacé de m'égorger. Alors je suis devenu un de leurs combattants. J'étais l'assistant d'un chef.
Quelles ont été vos actions ?
J'ai combattu contre les talibans, on les a chassés du village, puis on a commencé à se battre contre le gouvernement. Les chefs nous ordonnaient de tuer les gens qui nous combattaient, ils nous ordonnaient de les arrêter et de les mettre en prison. Ils nous disaient de faire de notre mieux pour combattre les ennemis. Je n'ai jamais fait de mauvaises actions. Il y avait des gens qui s'occupaient d'égorger les gens, d'autres qui étaient chargés de juger les prisonniers et d'autres qui avaient pour mission d'arrêter les gens. Moi, j'étais un simple combattant.
À se délier quand il s'agit de raconter les actions perpétrées sous le drapeau de l'EI. Assib, une barbe noire hirsute, 1m60, une longue tunique en coton sur un pantalon bleu marine, a l'air hagard. Il a 45
ans. Quand on attaquait un endroit, on tuait tout le monde. Les jeunes, les femmes, même les vieilles, les enfants. On arrêtait les jeunes. J'étais très heureux dans mon village avant. Mais à cause de toute cette violence, je suis parti pour me rendre. Je les ai vus forcer des hommes à s'agenouiller sur des bombes et après exploser. Je les ai vus emmener des femmes dans des chambres. Cela m'a beaucoup choqué. Et ça m'a mis en colère. Je les ai vus tuer des enfants. Je les ai vus couper les bras d'un homme avant de l'égorger. J'ai vu tout ça de mes propres yeux.
Assib affirme que la cruauté des combattants, celle des chefs qui donnaient les instructions, ont eu raison de son engagement.
Il y avait une base militaire à Dolkhel. Là-bas, ils ont tué 4 soldats et ils nous ont apporté leurs têtes. Cette fois-ci, je ne me suis pas trop fâché sur le coup. 5 jours plus tard, j'ai pris contact avec un chef de tribu de la région qui s'appelle Osman et qui m'a mis en relation avec Hadji Ayad, son chef.
Hadji Ayad est une barbe blanche. C'est ainsi que l'on nomme les chefs de tribu, des figures d'autorité vers lesquelles se tournent les villageois en cas de conflits familiaux ou de désaccords sur des questions foncières ou autres avec des voisins. Il est le responsable d'un groupe de chefs de tribu qui combat le groupe État islamique. Le vieil homme reçoit dans son bureau, aménagé chez l'un de ses amis en centre-ville. Sur les murs sont accrochées des photos de lui, entouré de personnalités politiques.
Des combattants de Daesh se sont rendus à moi. J'en ai fait arrêter certains, j'en ai tué aussi. Le cheval que vous voyez là sur la photo appartenait à celui qui se faisait appeler le roi de Daesh en Afghanistan, Hafiz Sayed. Lui, je l'ai capturé, tué et j'ai donné son cheval à Ashraf
Ghani. Il pointe du doigt une photo sur le mur. On le voit tendre la bride d'un cheval blanc au président afghan. Haji Yayad affirme qu'une cinquantaine de combattants se sont rendus à lui.
Ces gens viennent me voir. D'abord, ils contactent des personnes que je connais en s'apitoyant sur leur sort, en disant qu'ils regrettent leur action. Ils disent s'être trompés. Après, ils viennent me voir deux fois, trois fois, avant que je les accepte. Ce sont des personnes de tous âges, 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans, et tous disent s'être égarés.
Les autorités locales mettent en scène ces redditions, invitent la presse pour communiquer sur ces combattants qui désertent le groupe terroriste. Celui-ci continue néanmoins de faire régner la terreur dans la capitale provinciale tout en diffusant sa propagande. Chaque jour, en début de soirée, la voix du califat émet sur les ondes. Le groupe terroriste a sa propre station de radio que ni les autorités afghanes ni les soldats américains n'ont réussi à localiser. Des appels à la haine en langue pachto, celle qui est parlée dans cette partie de l'Afghanistan, sont diffusés quotidiennement. C'est aussi sur les ondes qu'ils appellent les Afghans à rejoindre leur rang et qu'ils terrorisent la population, comme l'explique Babra Karmadzai, le chef d'édition d'un journal local.
La radio de Daesh ici diffuse ses programmes en FM. Leur programme commence à 18h30 et cela dure une heure et demie. Ils s'en servent aussi pour lancer des menaces personnelles. Certaines sont destinées aux journalistes. J'ai moi-même été visé. Avec des confrères, nous sommes allés dans le district d'Achin après que les Américains aient largué la mer des bombes. On a pris une photo de notre groupe que l'on a postée sur Facebook. Quelques jours plus tard, on a vu notre photo sur l'un de leurs sites avec un texte disant que nous étions des infidèles qu'il fallait égorger.
Quelques jours plus tard, Babra Karmadzai entend la menace proférée sur les ondes de la voix du califat. Ce jour-là, il enregistre l'émission.
Ils disent que disent la vérité, contrairement aux journalistes. Voilà, là, ils parlent de la mer des bombes.
La voix du présentateur de l'émission accuse les journalistes de faire de la propagande sur la bombe GBU-43, une méga-bombe de 10 000 kilos larguée en avril dernier dans l'est de l'Afghanistan par les États-Unis pour détruire les galeries souterraines utilisées par les combattants de l'EI afin de se cacher. Ces menaces n'étaient pas les premières que Babra Karmadzai recevait. Quelques mois plus tôt, un homme l'avait appelé sur son téléphone portable afin de le menacer directement. Ce natif de Jalalabad ne croit pas en la reddition des anciens combattants de l'EI, ni en leur réinsertion. Ces hommes ne sont attirés que par l'argent, dit-il.
Je me suis entretenu avec certains des commandants qui se sont rendus aux autorités et qui ont été formés au Pakistan. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient payés à la tâche quand ils étaient avec Daesh. Ils m'ont dit qu'ils recevaient 50 000 roupies pakistanaises, soit 400 euros pour l'explosion d'un pont, 800 euros pour un militaire tué, la même chose pour une voiture de police ou un tank militaire explosé. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie.
Dans la capitale provinciale, Hassib Kamal Abdoul, anciennement sous le drapeau noir de l'EI, essaie de se réinsérer dans la société. Difficilement, chacun a aperçu du gouvernement 170 euros par mois pendant un an, dans le cadre du processus de paix qu'ils ont rejoint. Une aide à la réinsertion qui correspond au salaire moyen perçu par un policier en Afghanistan. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à reprendre une vie normale, comme l'explique Abdoul.
Je n'ai pas de travail. J'ai mes terres là-bas au village, mais j'ai dû les laisser. Il n'y a personne qui s'en occupe. Et ici, au bazar, en ville, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas faire un travail fixe. Je suis sûr que si je travaille au même endroit tout le temps, ils vont me repérer et ils me tueront en moins d'une semaine. Ils ont déjà essayé une fois. J'étais au marché et on m'a tiré dessus.
Quel avenir pour ces hommes qui affirment n'avoir commis aucun crime, mais qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête préalable par la justice afghane? Recherchés par leur ancien groupe, ils cachent leur passé à leurs voisins de peur d'être dénoncés ou persécutés pour leur ancienne appartenance à l'EI. Les services de sécurité affirment quant à eux garder en permanence un œil sur ces anciens combattants de l'organisation terroriste. Dans le centre de Jalalabad, le jardin de Bari-Shahi, ses multiples fleurs colorées, ses arcades et ses voûtes sous lesquelles s'abritent les oiseaux de la région. C'est là que se dresse un magnifique palais royal de style moghol, où Mohammad Ghulam Mongal, le gouverneur de la province du Nangarhar, reçoit ses visiteurs. Il est en poste depuis un an.
Au cours des 10 derniers mois, nous n'avons pas relâché la pression contre les hommes de l'organisation État islamique en Afghanistan. Nous ne cessons de les combattre. Beaucoup de personnes ont été tuées dans ces batailles. À chaque fois, ils utilisent des armes très lourdes. Nous avons abattu leurs guides, leurs dirigeants, ainsi que plusieurs personnes importantes. Nous avons aussi détruit leurs bases. Aujourd'hui, il ne reste que de petits groupes dans des villages reculés et loin du centre-ville. Avant, ils étaient plus nombreux. Nous pouvons confirmer leur présence dans 4 ou 5 districts seulement du Nangarhar.
Le Nangarhar est une province stratégique de l'Afghanistan par sa position géographique, frontalière du Pakistan, que les autorités afghanes accusent régulièrement de soutenir les terroristes.
Le Nangarhar est collé au Pakistan. 10 districts de la province se trouvent le long de la frontière. On a toujours vu des terroristes passer cette frontière, commettre des crimes ici, puis repartir de l'autre côté. Cette frontière poreuse est l'une de nos principales inquiétudes. Si le Pakistan ne fait rien contre ces terroristes, nous ne serons jamais en paix. Nous serons toujours menacés.
La frontière est si poreuse que des étrangers viennent gonfler les rangs de l'EI en Afghanistan, selon le gouverneur.
Il y a des gens de partout qui combattent dans leurs rangs. Il y a des Turkmènes, des Pakistanais, des Ouzbeks, des Tadjiks, des Tchétchènes. Il y a même des Chinois d'une tribu qui est appelée Error. Récemment, on a même vu des Indiens. Même s'il y a beaucoup d'Afghans, il y a tout de même de nombreux étrangers. Des Arabes notamment, dont certains qui viennent de Syrie.
Comme certains observateurs afghans et internationaux, Mohammad Ghulam Mongal s'inquiète de voir dans un avenir proche les combattants de l'EI en Syrie et en Irak se réfugier en Afghanistan après leur déroute.
Le terrorisme n'a pas de frontières. Ces combattants vont peut-être venir se battre ici. Ces personnes destinent leur vie au combat, à la violence. Dans le passé, ça s'est produit. Des étrangers sont venus se battre ici, en Afghanistan. Peut-être que cela arrivera encore une fois.
Il est difficile de connaître le nombre exact de combattants de l'organisation État islamique en Afghanistan. Des centaines, quelques milliers, les autorités afghanes peinent à le déterminer. Elles assurent cependant que ces combattants sont peu nombreux. Le groupe terroriste parvient néanmoins à alimenter un climat de terreur dans le pays. Aux racines du groupe État islamique du Khorasan en Afghanistan, un grand reportage signé Qassem Zabula et Sonia Ghezali, réalisé par Mathias Taylor.